France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Psychologie.
Musique et moi. Cécile Lajali. Elsa Boublil.
Et ce dont on ne peut parler, il faut le taire.
Wittgenstein, Tractatus Logicus Philosophicus.
Let me
C'est avec cet air du génie du froid de Purcell, interprété par Petteri Saloma et les arts florissants, qu'il vous arrive de chantonner sous la douche, je crois, que nous vous accueillons, Cécile Adjali.
Merci Elsa.
Bonjour.
Merci,
vous êtes auteure, agrégée de lettres modernes et titulaire d'un doctorat sur la figure de l'androgyne dans la littérature décadente. Vous êtes enseignante au cours Morvan, c'est un établissement laïque sous contrat avec l'État, destiné aux sourds et malentendants, mais également aux autistes et à ceux atteints du trouble du langage. Vous êtes également enseignante à la Salle Blanche. Bref, vous entretenez un rapport très amoureux à la langue, aux mots, au sens et au texte. Vous êtes d'ailleurs aventuré avec beaucoup de talent et de malice dans la traduction de la comédie de Shakespeare « Comme il vous plaira » aux Belles Lettres en janvier dernier. Et vous signez aujourd'hui votre 12e roman chez Actes Sud, « La fille de personne ». Je suis ravie de vous accueillir ce matin. Vous êtes aussi une très grande mélomane, on peut le lire à travers vos textes. On peut même l'appréhender à travers votre traduction de Shakespeare, qui est une traduction très mélodieuse. D'où Purcell pour vous accueillir.
Merci Elsa d'avoir fait entendre aux auditeurs ce moment de grâce hein, qui est le chant de l'hiver hein, de Purcell. Moi j'ai en tête, en mémoire, l'interprétation de Klaus Nomi, cette voix de contralto éminemment androgyne qui me séduit depuis l'enfance parce que la figure de l'androgyne à laquelle j'ai consacré ma thèse de doctorat est véritablement une figure qui me hante et qui structure même mon propos littéraire. Mon avant-dernier roman, Bénédicte, est un roman où il est beaucoup question de musique. D'ailleurs, cette partition de Purcell est citée presque à l'incipit du roman. Le personnage principal, dont on ne sait trop s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, essaye de suturer ensemble les mondes, parce que l'androgyne, c'est ça, c'est la réconciliation des contraires. Bénédicte est à moitié suisse, à moitié iranienne. Elle essaye donc de faire fusionner ensemble l'Orient et l'Occident, le masculin, le féminin, le corps et l'esprit. Et la tragédie de ce personnage, c'est que très souvent, le monde tel qu'il est, les hommes tels qu'ils sont, lui disent que la fusion des contraires est impossible. Et je crois que je n'ai de cesse, de livre en livre, de fiction en fiction inventée, d'essayer de faire en sorte que l'impossible advienne, que les opposés fusionnent, que le noir et le blanc fassent du gris, parce que la grâce, pour moi, est déposée dans la nuit. Nuance, rien que la nuance.
Ou comme une couturière.
Comme Verlaine.
Oui, ou comme une couturière, mettre ce fil qui tisse deux tissus ensemble.
Oui.
Et qui, bon, en vous connaissant un peu, nous font vous découvrir, vous, à chaque fois, sous un autre angle. Et alors, j'avais envie de parler à nos auditeurs de ce lapsus extraordinaire que vous avez fait, puisque en ouverture d'émission, vous avez cité Wittgenstein, et ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Or, vous nous avez envoyé la phrase en l'écrivant, et ce dont on ne peut parler, il faut le faire. Et j'ai envie de vous dire, les deux vous vont parfaitement.
Oui, je suis professeure et je crois que comme tous les gens de ma profession, je suis atteinte de la maladie de l'espoir. Je ne peux pas me soumettre à une sorte de déterminisme, de fatalisme, quel qu'il soit. Et mon arme de poing, c'est l'action. Je suis dans le faire
en permanence.
En permanence, je cours toute la journée, je fais cours à des étudiants, je fais cours à des élèves, je parle tout le temps, je pousse même le vice jusqu'à faire cours à des élèves qui sont sourds, donc je suis une acharnée, une malade de l'espoir. Et
une voilà. Malade du mot.
Et du mot, oui, une malade du mot. Je crois que le premier personnage de mes romans, c'est avant tout le langage, et j'ai jeté mon dévolu dans la fiction tout de suite sur le langage, sur le mot, sur la formule. Et si je pousse très très loin, jusqu'à l'hystérie même parfois, ce désir de dire et de déplier des explications et de raconter des histoires à longueur de temps, c'est parce qu'au départ dans ma vie, il n'y avait que du silence.
C'est donc ainsi que vous pouvez nous expliquer ce très beau lapsus que vous nous avez offert.
Oh, il était temps. À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt.
Vous avez vu la grosseur des pattes ?
Des poteaux.
Il a eu mauvais. approchez pas.
Il est mal coiffé.
N'approchez pas.
Approche pas.
Et ses dents,
oui, regarde ses dents. Une rangée de couteaux.
N'approchez pas. On dirait que vous cherchez le danger.
Alors, il me lèche la main.
En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre.
Vous chantonnez, Cécile Adjali, oui. Vous prenez la voix du canard, oui. Et du hautbois. C'est donc Pierre et le loup de Prokofiev, bien sûr, interprété par l'ensemble instrumental de Basse Normandie, avec en dialogue Dominique Debar et François Morel, oui. Pour réentendre cette arrivée du loup qui a marqué votre enfance, je crois.
Oui. Parce que, bon, elle était terrifiante, cette arrivée du loup, avec ses basses, ses sons extrêmement profonds qui venaient de la nuit. Et j'ai eu l'extrême surprise, tout enfant, de réaliser qu'il y avait dans le mal une extrême beauté. Ça m'a beaucoup ébranlée. Et puis, je trouvais qu'une œuvre aussi cruelle que celle de Prokofiev, qui consistait à faire que ce canard, que j'adore, hein, là, on l'a entendu, se fasse manger tout cru par le loup, je trouvais qu'il y avait dans les œuvres destinées aux enfants, parce que mes parents me faisaient écouter Prokofiev en boucle, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'étrange dans les œuvres qui pouvait aller aussi loin dans la cruauté, dans le sadisme, dans une forme de vice. Donc, je trouvais incroyable que ce canard, en fait, soit dévoré, soit mangé. Je trouvais que ça allait très, très, très loin, cette histoire. Donc, voilà, la beauté du mal, la beauté du diable, hein, pour paraphraser le titre d'un film avec Gérard Philippe que j'adore. Et puis, la cruauté des œuvres. Après, je suis restée profondément baudelairienne, sadienne. J'adore les écrits de Georges Bataille, ou ceux d'Antonin Artaud sur le théâtre et la cruauté. Voilà. Et puis j'ai fait une thèse sur la littérature décadente. Donc voilà, il y a quelque chose dans le trouble que nous imposent ces œuvres où le mal est là, qui me plaît beaucoup, parce que dans ce trouble-là est toujours déposée la beauté. Hier, je relisais quelques pages, parce que c'est un pavé, du docteur Faustus de Thomas Mann. Et au centre de ce livre, il y a les feuillets que Adriaan Leverkun, qui a vendu son âme au diable pour pouvoir composer une musique extraordinaire qui évoque celle de Schoenberg et le dodécaphonisme, il y a dans ces pages-là un dialogue entre moi, Adriaan Leverkun, et lui c'est Satan, lui c'est le diable qui un soir, comme Méphistophélès rend visite à Faust, et bien vient voir Adriaan pour lui dire que la musique et la beauté ont à voir avec le démon. Et ça, c'est des choses qui m'ont que j'ai senti, que j'ai intuitionné quand j'étais petite.
Je voulais vous poser d'autres questions sur votre enfance, mais on est obligé de passer à ça.
We'll be right back.
Nous parlions de Faust, et bien voilà, la marche hongroise de la damnation de Faust de Hector Berlioz, interprétée par l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de Sir Colin Davis. Oui, parce que vous parliez, Cécile Adjali, de Faust, de La Beauté du Diable, ce film avec Gérard Philippe
et Michel Simon.
Voilà, Michel Simon. Ouais. Et justement, ce diable que vous aimez, pour rattacher cela à votre enfance, où je voulais vous poser la question de quelle enfance avez-vous vécu? On a l'impression d'une enfant choyée, aimée par-dessus tout, presque une petite princesse dans son palais.
Oui. Papa avec... m'appelait Chabanou. Voilà. Alors, je comprenais pas pourquoi, bien sûr, mais bon.
Et à la fois cette tragédie que vous avez avec vous et qui est là tout le temps, qui est au-dessus de vous, de cette enfance d'abandon.
Oui. Alors ça, j'en parle dans le roman que je m'étais dit que je n'écrirais jamais, c'est le 7e, je crois, Chab ou la nuit, qui est un texte où je rends hommage à mes parents adoptifs, parce que bon, papa et maman, la Djali, sont décédés aujourd'hui, mon père est mort lorsque j'avais 17 ans, maman est morte 10 ans après de maladies terribles qu'ils ont emportées tous les deux, trop jeunes, beaucoup trop jeunes, et ils m'avaient adoptée alors que moi j'avais 6 mois, parce qu'ils pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont été me chercher dans une pouponnière à Lausanne, où j'avais été abandonnée par ma mère biologique, une dame iranienne, qui était fille-mère, et qui, dans les années 70, ne pouvait me garder vivante, puis elle non plus d'ailleurs, en Iran. Donc elle était venue en Suisse et elle m'a laissée là. Papa et maman sont venus me chercher. Et ils m'ont élevée, c'était donc des bourgeois de la région parisienne. Nous vivions à Champigny-sur-Marne, dans un pavillon de banlieue un peu triste, tout près de Paris. Et ils m'ont toujours dit que j'avais été adoptée. En revanche, rien n'a été formulé à l'endroit de mes origines iraniennes. Et il est évident qu'un enfant, lorsque on ne lui dit pas les choses, il va passer sa vie après à donner un sens à ses silences et à rendre ces silences-là éloquents. Et c'est tout mon travail de reconstitution dans Chab ou la nuit, où je reprends grâce à la mémoire que j'ai assez développée, ces petites pierres blanches, comme le petit pousset les aurait semées partout dans sa vie. Mon père et ma mère avaient laissé des petites traces comme ça dans leur vie. Et je m'en suis souvenue au moment de la rédaction de ce livre, bien après leur mort. Et j'ai reconstitué le pulse, j'ai recousu les morceaux de tissu déchirés ensemble. Et je crois que ça n'est rien que cela, l'écriture, un travail de reconstitution, un travail à l'endroit de la mémoire et surtout l'occasion de faire parler les morts et de rendre hommage aux taiseux, à ceux qui n'avaient pas envie, comme mes parents, de parler parce que c'était des gens immensément aimants, immensément intelligents, mais qui n'étaient pas des êtres de langage. Il n'y avait pas de livre à la maison, par exemple.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Revenons-en à cette marche hongroise, Cécile Adjali, parce que donc pas de livres à la maison, mais de la musique.
Très peu. Oui, de la musique. Alors, il y avait, par exemple, le petit ménestrel avec Gérard Philippe qui racontait l'histoire de la vie de Mozart, que j'écoutais en boucle avec Pierre et le Loup, qu'on a entendu tout à l'heure. Il y avait le lac des Cygnes, que j'ai été plusieurs fois voir au Palais Garnier, endimanché avec des vêtements de petite fille très BCBG qui ne m'allait pas du tout. J'ai eu une éducation très 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 classique du côté de l'école, on en parlera dans un instant je crois, et du côté de la musique, donc beaucoup de musique classique à la maison. Et puis je crois que la musique est un langage à part entière et que maman, qui n'aimait pas beaucoup parler, a choisi un soir, j'étais une petite fille encore, j'étais pas adolescente, je devais avoir 11 ans, un soir, un dimanche pluvieux à Champigny-sur-Marne, dans ce pavillon triste, elle a choisi de me parler de mes origines iraniennes, mais pas avec les mots, mais avec un disque.
Grumble, fair fight, but if they start a rumble, we'll rumble them right.
We're gonna handle muscle prize tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said volcano rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to meet.
kick tonight. We'll have a private little mix tonight. He'll walk in hot and tired, so what? Don't matter if he's tired, as long as he's hot tonight.
Un extrait de West Side Story de Leonard Bernstein, dirigé par Leonard Bernstein. Donc c'est la version orchestrale avec Kirite Kanawa, José Carreras, Tatiana Troyanos et Kurt Holman. Mm-hmm. Vous avez chanté Cecilia Jolly, puisque ce disque, vous le disiez tout à l'heure, c'était le message caché de votre mère sur vos origines.
C'était un legs, hein, je pense. Hein. Je reconstitue les choses a posteriori, mais l'histoire de West Side Story, c'est une histoire de gang ennemi. C'est une réécriture en plein Manhattan dans les années 60 de Roméo et Juliette. C'est les deux maisons, non pas les Montaigu et les Capulet, mais c'est les Jets et les Sharks. C'est Tony qui est américain et Maria qui, envers et contre tout, vont essayer de s'aimer. Et c'est vraiment une comédie musicale où il est beaucoup question du racisme à l'endroit des Portoricains notamment. Et moi, avec cette air morricote que j'ai, toute brune.
On ne voit pas, mais vous êtes donc brune. Vous avez les cheveux noirs, vous avez la peau mat.
Bah, j'ai vraiment le type persan absolu, quoi. Et je ne savais pas donc d'où je venais. J'étais dans l'école où j'étais scolarisée à Nogent-sur-Marne, donc entourée de jeunes bourgeois catholiques extrêmement racistes qui passaient leur temps à me traiter de sale arabe. Et moi, je ne savais pas quoi leur répondre. Et je leur racontais n'importe quoi. Un jour, j'étais espagnole. Un cours, j'étais italienne. Un cours, j'étais indienne. Enfin, je ne savais pas quoi dire puisqu'on ne m'avait rien dit. Je me blanchissais la peau à l'eau de Javel. Je me mettais du talc sur la figure. Je m'épilais les sourcils de façon... C'était affreux, un vrai carnage. Et jamais je ne parlais à maman de ces déconvenues, de cette grande tristesse qui m'accablait au quotidien dans ce bahut, parce que j'étais victime de racisme. Et elle me donne donc à écouter... un 33 tours, un vinyle. Et là, je suis profondément touchée par la musique de Leonard Bernstein, par le jazz. C'est Françoise Sagan qui disait que le jazz, c'était de l'insouciance en accéléré, je crois. Eh bien, pour moi, ça a été de la surconscience en accéléré. Ce soir-là, j'ai compris ce que c'était que le racisme. J'ai compris aussi que quelqu'un comme Natalie Wood, parce qu'il y avait les images du film à l'intérieur du coffret de 33 tours.
Les photos du film
de Robert Wise. J'ai vu à quel point elle était brune et à quel point elle était belle et à quel point on pouvait aimer une fille comme ça. Donc, ça m'a réconciliée avec pas mal de paradoxes, avec pas mal de tiraillements.
Précisons que votre mère adoptive était blonde aux yeux bleus.
Voilà, était blonde aux yeux bleus. Et donc, voilà, il y avait un vrai problème pour moi de pouvoir me rattacher à une famille, à une filiation, à un sang, à un corps qui aurait pu me ressembler. Et là, il y avait presque des cousins dans ce film. Alors déjà, ça m'a confortée, mais c'est surtout la scène finale. Au moment où Tony se fait tuer par ses ennemis, Maria donc se penche sur le corps de ce grand et beau jeune homme étalé sur le trottoir luisant de pluie. Elle le prend dans ses bras. L'un des jets qui est là pose sur la tête de Maria un châle noir. Et à ce moment-là, c'était l'intention, je pense, de Robert Wise, le metteur en scène. Elle ressemble à une Pietà. Une Pietà, la Sainte Vierge, qui tient dans ses bras son Christ qu'on vient de descendre de la croix. Et j'ai revu à 20 ans. J'ai revu le film. Et là, j'ai fondu en larmes parce que j'ai compris une chose. Quand Maria, elle porte ce voile noir sur la tête et qu'elle se lève avec une immense dignité mêlée d'une immense douleur, c'est pas à une portoricaine ni à une Pietà qu'elle ressemble, c'est à une iranienne. Et c'est ça que ma mère m'a dit ce soir-là.
Hey, عشق نخوص بی نخوفتی هرگز ای عشق نخوص بی نخوفتی هرگز در دیده خفتگان نیافتی هرگز باقی سخنی هست نگویم آن را تو نیز نگویی نگفتی هرگز ای عشق ای عشق ای
Ali Reza Ghorbani interprète Mona Hadjat, un traditionnel iranien extrait de l'album de Kaboul à Bamako, sorti l'année dernière, en 2019, pour raconter les exils de chacun à travers le monde et ce que l'on en garde. C'est pour ça, Cécile Hadjali, que je voulais vous le faire entendre. Savoir si, en découvrant à 20 ans d'où vous veniez, cela a ouvert votre curiosité vers cette culture-là, vers ces musiques, cette littérature.
Alors, j'avais l'intuition que quelque chose d'important se jouerait dans ma vie pour moi du côté du Moyen-Orient, du côté de l'Iran, déjà très tôt quand j'étais petite et qu'on ne m'avait rien dit. En fait, j'ai eu accès à la musique orientale par le prisme de la musique et de l'harmonie occidentale. J'avais des cours de piano, j'avais un merveilleux professeur de piano non loin de chez moi. Et donc les gnossiennes de Satie. Là, il y a quelque chose d'orientalisant. Et j'avais, dans cette partition-là, entendu l'Orient, avant même qu'on ne m'en ait parlé. Donc déjà, une chose, et effectivement, une fois que j'ai eu conscience, parce que avec maman, un peu avant sa mort, elle m'a parlé de l'Iran. Papa était donc décédé déjà. Moi, je venais d'avoir mon premier enfant, Camille, mon grand garçon aujourd'hui. Et là, j'avais besoin d'en savoir plus sur mes origines, surtout que ce petit garçon tout brun comme moi, on me disait « c'est fou comme il te ressemble ». Et c'était pour moi une explosion de joie et puis d'étonnement aussi d'entendre cette phrase « c'est fou comme il te ressemble ». C'était la première fois que quelqu'un me ressemblait sur cette terre. Alors là, j'ai compris la puissance du corps, la force du sang, de toutes ces choses inconnues que j'avais toujours voulu nier, parce que pour moi, tout était esprit. Ma mère m'avait dit « tu es née dans une grande maison en Suisse, donc dans un pays tout blanc, tout propre ». Il y avait les pauvres bébés qui sortaient des ventres de leur mère. Et moi, j'étais sortie d'une grande maison en Suisse. Donc, vous imaginez bien, Elsa, le type de problème psychologique que ça peut occasionner, ce type de mythologie personnelle qu'on se forge quand on est petite. Hein, croire qu'on est né d'une grande maison au lieu d'un ventre de femme. Bon, voilà, au moment où moi-même j'ai eu un enfant, j'ai dû me rendre à cette évidence. Le sang, le corps était extrêmement puissant. La terre aussi, la terre iranienne, toutes ses origines, il fallait qu'on m'en parle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire très sérieusement sur l'Iran, sur des pays comme le Kazakhstan, dans un roman qui s'appelle Aral. Là, je m'approche du territoire mystérieux avec la mer d'Aral. D'ailleurs, un roman sur la musique. Et c'est donc après 20 ans que j'ai commencé, grâce à mon art et grâce à la création littéraire, à m'emparer à bras-le-corps de toutes ces choses si terrifiantes qu'étaient pour moi le Moyen-Orient, l'Iran, à travers l'écriture, à travers la musique. Et je crois que l'on crée pour avoir moins peur, pour circonscrire quelque chose de très effrayant au départ, dans la syntaxe, dans les images, dans une musique.
Thank you.
Laurence Sekilbé dirige l'Insula Orchestra avec le chœur Accentus dans cet extrait du Requiem de Mozart qui nous renvoie à un moment assez paradoxal, encore une fois, Cécile Adjali, puisque c'est votre composition, le paradoxe. Ce moment où votre papa disparaît,
oui.
Au même moment, vous interprétez vous-même le Requiem de Mozart avec le chœur du lycée.
Oui, oui, on le chante au lycée Marcelin Berthelot. J'étais scolarisée au moment du bac à Lauréat. Et donc, papa meurt dans d'atroces souffrances, hein, d'un cancer des os. Hein, c'est un cancer extrêmement douloureux. Et il est dans sa chambre. Il ne supporte même plus le poids de son drap sur ses os qui lui font si mal. Et il gueule et il pleure. Et moi, j'ai 17 ans et j'en peux plus l'entendre pleurer et gueuler. Il me fait peur. J'ai pas envie de parler de la mort. J'ai pas envie de parler de la maladie. Et donc, pour me venger, je fais quelque chose d'atroce. Je mets le Requiem de Mozart à fond pour lui clouer le bec et pour lui dire qu'il faut qu'il arrête de me voler mon enfance. Voilà, je me fais entendre cette musique merveilleuse, mais qui est aussi une musique de mort, une musique que Mozart est en train de composer sur son propre lit de mort d'ailleurs. Et je crois que je fais ça pour lui faire du mal, parce qu'il m'en fait, et que ma vie commence, et qu'il va me laisser tomber, je vais encore être abandonnée, et voilà, et j'ai presque, j'allais dire j'ai honte de ce que je suis en train de vous dire, en fait non, j'en ai pas honte, pas plus que je n'ai eu honte de dire des choses parfois très dures dans mon livre Chabou la nuit, parce que je crois que quand on est une conscience en formation, quand on se construit, quand on est une toute jeune femme, on est plein d'amour mais aussi plein de colère, et moi avec vous Elsa ici dans ce studio et à chaque fois que j'écris aussi, je veux être honnête, je dis les choses comme je les ai vécues, comme je le pense encore, et j'étais en colère contre papa parce qu'il me laissait tomber.
Et le paradoxe de tout ça, Cécile Adjali, c'est que à ce moment même où votre papa vous laisse tomber, c'est l'envol scolaire, c'est-à-dire que vous avez une scolarité difficile, douloureuse, semée d'embûches, oui. D'abord à ce collège dans lequel vous avez souffert de racisme, et puis ce collège qui propose à vos parents de vous orienter.
Oui, j'étais nulle en maths en fait, et il fallait m'orienter vers une voie de garage qui n'était pas une filière, qui n'était pas dans mon lycée pour pouvoir me dégager quoi. Et donc on m'orientait dans une première technologique qui est d'ailleurs une section formidable hein, mais qui n'était pas du tout faite pour moi puisque j'étais nulle en maths et donc j'avais plein de comptabilité, de choses comme ça. J'avais 0 en compta mais j'avais 19 en français et j'ai été sauvée donc là à Marcelin Berthelot par ma prof de français qui a alerté le proviseur qui lui a dit qu'est-ce qu'elle fait là la Djali, elle aura jamais un bac G mais elle a 19 en français, il faut la passer en lettres. Et donc je suis passée en auditeur libre à la fin de la première, en première A3, c'était les lettres et arts, et donc j'avais de la musique au programme. Et puis j'ai eu de très bonnes notes au bac français. Mon père, juste avant de mourir, a su que j'avais eu 2,16 à l'écrit et à l'oral en français. Il m'a dit, ma chérie, je crois qu'on s'est trompé, ta mère et moi, en ce qui te concerne. Et puis j'ai effectivement l'année de la terminale, l'année du bac, papa est mort, et là je me suis autorisée à être une bonne élève, et j'ai eu très bonne note au baccalauréat. Et je crois que, du vivant de papa, je ne m'autorisais pas à être meilleure que lui. Je crois que les gens qui vous aiment placent inconsciemment des plafonds de verre au-dessus de votre tête et je n'osais pas le transpercer, ce plafond. Et ça n'est qu'à la mort de maman que j'ai publié mes premiers livres. Voilà, mes parents ne le lisaient pas, mes parents n'avaient pas leur bac et puisque j'avais été adoptée par eux et que ma mère était blonde aux yeux bleus, je voulais leur ressembler plus que tout. Et donc, je crois que je me suis longtemps interdit d'être une bonne élève et encore plus d'être un écrivain.
Yeah.
Valérie Gergiev dirige l'Orchestre symphonique de Londres dans cet extrait du Château de Barbe Bleue de Bartok. On a entendu la première porte ouverte, la salle de torture de Barbe Bleue. Cet opéra dans lequel deux personnages, Barbe Bleue et son épouse, sont en scène. Elle le persuade d'ouvrir les sept portes de son château pour y faire entrer un peu de lumière, hein, même la lumière. Et chaque ouverture dévoile des visions de plus en plus troublantes. La dernière, bien sûr, recèle le secret du château de Barbe Bleue et scelle le sort de la jeune femme. C'est intéressant, Cécilia Djali, c'est un opéra que vous avez beaucoup écouté justement à ce moment crucial où, libéré finalement de cette parentalité dont vous aviez besoin, vous avez pu aller vers d'autres chemins.
Oui, je me suis inventé une autre famille au moment où maman, on est en 99 là, était en train de mourir et de sortir de ma vie. C'est George Steiner, philosophe du langage immense, qui était en train d'y entrer. Je faisais des allers-retours entre la Salpêtrière et le quartier latin où j'avais rendez-vous avec lui. La Salpêtrière, c'est là où maman était hospitalisée. Et George Steiner m'a appris énormément de choses en littérature, en philosophie, et notamment à travers un livre, un tout petit livre, très 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 court, mais essentiel, qui s'appelle « Dans le château de Barbe Bleue ». Et donc c'est au moment où je rencontrais Steiner que j'écoutais cet opéra en boucle parce qu'il avait choisi ce titre-là et aussi de placer en épigraphe à son essai une portée de l'opéra de Bartok pour signifier que le XXe siècle avait ouvert une porte sur la nuit. Et ce livre pose sans cesse la question insupportable de la culture, de la haute culture qui n'a pas pu empêcher la barbarie. C'est une aporie philosophique. Steiner lui-même ne peut pas y répondre. Pourquoi est-ce que c'est dans le pays le plus cultivé au monde, l'Allemagne, qu'il s'est passé la barbarie la plus épouvantable au milieu du XXe siècle? Et en fait, cette musique, la personnalité immense de George Steiner ont à un moment donné, à la mort de maman, profondément influencé ma pensée, mon travail d'écriture. Il m'a dit qu'il fallait que j'arrête avec les ballets russe, avec Diaghilev, avec la littérature décadente, avec les dandys, avec le mauve, et qu'il fallait que je lise des choses sérieuses. Ma petite lit Sartre, lit Beckett, et j'ai été avec l'écriture à l'os. J'ai essayé de dire les choses à minima. Et cette phrase d'ouverture de notre émission, Elsa, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. C'est Steiner qui me l'a soufflé à l'oreille. C'est que parfois, il vaut mieux être dans le blanc, être dans le silence, qu'être dans des phrases qui n'en finissent pas, comme celle que je suis en train de faire en ce moment, et qui parfois ne veulent pas dire grand-chose. Et donc, c'est beaucoup plus difficile, c'est ce que m'a enseigné Steiner aussi, de faire simple que de faire compliqué.
C'est drôle, Cécile Adjani, parce que vous nous parlez du silence et on vous entend courir après les mots.
Mais c'est parce que j'ai peur du silence, j'ai peur du blanc. Le blanc, c'est la couleur de la pouponnière. C'est pour ça que je suis toujours habillée en noir, d'ailleurs.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Cécile Adjali, comment avez-vous rencontré Georges Steiner? Parce que vous nous dites que c'est cette famille que vous choisissez à ce moment-là, mais comment on rencontre une famille pareille?
Alors c'est un véritable conte de Noël, c'est pas moi qui l'ai rencontré en premier, ce sont mes élèves. C'était en 98, j'étais professeur de lettres au lycée Eugène Delacroix à Drancy. J'avais fait part à mes élèves qui connaissaient très bien l'histoire sinistre de leur ville, j'avais fait part à mes élèves de seconde du postulat nihiliste de Théodore Adorno, qui écrit au début des années 50 que commettre un poème après Auschwitz, ce serait barbare. Donc plus de poésie après Auschwitz. Mes élèves s'insurgent contre le postulat nihiliste d'Adorno, sur lequel Adorno est revenu un peu plus tard, mais en tout cas ça plaît pas du tout à mes élèves. Et ils me disent, madame, on est à Drancy, et de Drancy, on va écrire de la poésie. Et on va envoyer nos poèmes à ce monsieur dont vous nous parlez tout le temps, et que je ne connaissais pas encore, je l'avais juste lu, George Steiner. On va lui envoyer les poèmes à Cambridge, en Angleterre, et puis, s'ils bluffent pas, ça devrait le toucher de voir que des élèves de Seine-Saint-Denis, de Drancy, écrivent malgré tout, malgré l'histoire sinistre de leur ville, de la poésie. Et on envoie les poèmes à George Steiner, c'était des poèmes sur le thème de l'enfer, et notamment l'enfer concentrationnaire. Les élèves avaient lu Paul Celan, Neil Isaacs, Gertrude Colmar, enfin du gros lourd comme ça, pour donner de la substance à leur texte, et Steiner reçoit les poèmes des enfants. Il me répond une lettre, on est le 24 décembre 98. Madame, je suis profondément émue par les écrits de vos élèves, car ce n'est pas à l'université, mais dans le secondaire que se mènent les luttes décisives contre la barbarie et le vide, et cela à l'ombre atroce du nom de Drancy. Et ça continue comme ça, et il propose de préfacer ce qui va devenir le recueil de poèmes des élèves, puisque Éric Nolot, du temps où il était éditeur à l'Esprit des Péninsules, a publié sous le beau titre de Murmure, le recueil de poèmes des élèves de Drancy. Et c'est, ce conte de Noël, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les mondes peuvent se rencontrer, le Churchill College, l'immense intellectuel qu'est George Steiner et les enfants de la Seine-Saint-Denis, les mondes se rejoignent, ça j'adore. Et puis ça veut dire aussi que contre le souvenir de la nuit et du vide, les enfants ont eu le réflexe de la poésie.
Thank you.
Yulia Lesneva et Philippe Jarouski interprètent le Stabat Mater en fa mineur de Pergolèse avec Ibaro Kisti et le chœur de la radio-télévision suisse-italienne sous la direction de Diego Fasolis. Stabat Mater qui est une œuvre là où justement les voix se confondent, les voix se mélangent. C'est cette voix que vous avez partagée aussi avec Georges Steiner qui vous ont fait produire aussi l'éloge de la transmission, le maître et l'élève chez Albin Michel dans la collection Itinéraire du savoir, Cécile Ladjali. C'est une œuvre comme ça qui nous fait entendre finalement ces deux personnes et on ne sait pas qui dit quoi, qui est où, qui fait quoi.
Oui, on est dans une forme d'ambiguïté qui me plaît tant. La voix que je trouve la plus belle, c'est la voix la plus grave, hein, celle de Marie-Madeleine, ici au pied de la croix. Toutes les deux, Marie et Marie-Madeleine, elles ont presque le même nom, hein, aimaient profondément le Christ, mais d'un amour plus érotique pour la première et d'un amour maternel pour la seconde, hein, donc pour Marie-Madeleine et pour Marie. Je crois que le dialogue parfaitement réussi, c'est un dialogue où toutes les voix ne font qu'une et qu'on entend quelque chose de profondément harmonique à un moment donné qui fonctionne à l'unisson, et c'est toujours cette chose-là, le un, l'unique, je suis très plotinienne en cela, hein, que je recherche, parce que justement la séparation, la division sont pour moi des tragédies, hein. La figure de l'androgyne, c'est ça au départ, hein, dans le banquet d'amour, Platon nous le rappelle, au départ l'homme est un, en androgyne, homme, femme, puis les deux moitiés sont séparées parce qu'elles sont coupables d'hubris et elles se recherchent éperdument et parfois, dans la nuit du mythe, elles se retrouvent et elles peuvent fusionner. Si souvent en amour on est malheureux, c'est ce que Aristophane, hein, dans le banquet de Platon raconte à ses convives, si souvent en amour on est malheureux, c'est qu'on ne fusionne pas, entendre, parce que Aristophane est un gros coquin, entendre, on ne copule pas avec sa bonne moitié, mais parfois quand on retrouve sa moitié, celle avec qui on était tout au début avant la séparation, eh bien, on vit une sorte de coup de foudre et ça s'appelle l'évidence. Et l'évidence, elle se joue à tous les niveaux, en musique, en peinture, en littérature, quand l'œuvre est parfaite.
Vous, Cécile Ladjali, votre autre moitié, celle qui complète celle de l'auteur, c'est la musique ?
C'est très étrange parce que en tant que professeur, en tant qu'écrivain, ce sont les livres qui sont au premier plan dans ma vie a priori, et pourtant rien ne me transporte, ne me transperce autant que la musique, et je regrette de pas l'avoir plus pratiqué avec le piano, de ne pas avoir chanté davantage dans des chorales, parce que c'est ce qu'il y a de plus évident pour moi, la musique, oui.
Et pourtant, elle est là tout le temps dans vos textes, dans le rythme, oui, que vous nous faites vivre et dans cette mélodie aussi de la phrase.
Thank you.
Le concert numéro 41 de Sainte-Colombe, le retour pour deux basses de viol interprétées par Christine Plubeau et Isabelle Sainte-Yves. Ces deux voix qui se mêlent, qui s'entremêlent, comme tout à l'heure avec le Stabat Mater, Cécile Adjali. Là, ce sont les deux voix de deux viols de gambe que vous avez écoutées pour la traduction de « Comme il vous plaira » de Shakespeare. Et on dirait que ces deux voix vous ont guidé vers l'unité faite avec Shakespeare.
Oui, ce sont deux voix baroques. Le texte de Shakespeare est de tessiture baroque aussi. Qui dit baroque dit mélange des contraires et immense complexité, mélange des registres, mouvements, métamorphose constante pour, en fin de compte, en arriver à une forme de sublime réconciliation, hein, comme toujours, de sublime harmonie, de diapason parfait. Et j'ai effectivement, à la demande de Florian Azoulay, traduit récemment « Comme il vous plaira » de Shakespeare aux éditions des Belles Lettres, en me sentant déjà dans une position d'imposture absolue, vu mon niveau en anglais au départ. Mais Florian m'avait bien précisé qu'il souhaitait dépoussiérer tout le fond Shakespeare aux belles lettres, et il demandait pour cela à des auteurs contemporains de prendre en charge un texte de Shakespeare. Et moi, m'est revenu forcément Comme il vous plaira, puisqu'il s'agit d'une comédie autour du grand thème de l'androgyne, du travesti, en fait Rosalinde se travestit en Ganymède, Orlando, amoureux de Rosalinde, ne sait plus où donner de la tête quand il croit qu'il est amoureux d'un garçon, parce qu'il devine que derrière ce Ganymède, il y a bien autre chose, mais il ne sait pas trop quoi. Donc voilà. Voilà, là on est dans les anamorphoses et les mouvements et les volutes typiquement baroques. Et effectivement, quand on fait un travail de traduction, on pense avant tout en termes de rythme, de syntaxe, de phonie, de musique donc. Et pour m'accompagner, ce que je ne fais pas du tout quand j'écris un roman, parce que la musique me parle trop, mais là le travail de traduction m'autorisait à cela, pour m'accompagner, pour être dans une ambiance typique début 17e, typiquement baroque, dans cette tessiture-là si particulière, j'ai écouté beaucoup de musique baroque au moment de la traduction, et peut-être que ça s'entend un peu dans ma grammaire, je ne sais pas.
Absolument même.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
On est tout le temps en train de parler de réconciliation, Cécile Adjali, depuis le début de cette émission.
Mais j'y tiens parce que j'ai pas les épaules pour le conflit. Je pourrais pas faire de politique, vous voyez.
Mais cette réconciliation que vous cousez avec beaucoup de patience et de talent, et même, je dirais, avec beaucoup d'insistance, nous fait entendre tout le temps le silence. Est-ce que vous arrivez à bien vivre avec ces silences qui vous habitent? Avec ces silences qui sont d'ailleurs ceux que vous nous faites lire et vivre.
Alors, les silences, je le sais bien, sont essentiels à la compréhension d'un discours, d'un texte. Quand on est comédien, il faut faire entendre le silence sur scène. Quand on est musicien, il faut faire entendre le silence au moment du concert. Sinon, c'est la cacophonie, sinon tout se mélange. Moi, pour les raisons que je vous ai expliquées, qui sont d'ordre sans doute très psychanalytique, voire psychiatrique, le silence, c'est le blanc, c'est le souvenir qui est un non-souvenir de choses très archaïques, très primaires chez moi, c'est-à-dire cette station de 6 mois à la Pouponnière où je devais être entourée de blanc dans le lit, dans les locaux, donc du blanc du côté de l'ameublement que j'ai dû voir, que j'ai dû avoir dans la pupille pendant des semaines et des semaines, et puis peut-être aussi le blanc de la non-parole, même si j'ai l'intuition, étant donné le rapport que j'ai au langage aujourd'hui, qui est quand même un rapport bon qui est possible, hein, vu comme je parle et que j'écris. Je pense que quand j'étais à la Pouponnière, je peux pas m'en souvenir, mais ça m'émeut beaucoup quand je vous le dis parce que c'est une supposition, mais je suis sûre que j'ai raison. Je pense qu'à la Pouponnière, il y a une nurse qui me parlait et qui m'a sauvé la peau. Je crois que un enfant peut mourir si on ne lui parle pas. Je vous parle pas de nourriture, je vous parle pas de propreté dans les langes, tout ça. C'est très important, bien sûr. Mais je crois que sans caresse et sans parole, c'est la même chose pour moi, les caresses et le langage, eh bien, on peut mourir.
Thank you.
un extrait de la bande originale The Hours, signé Philip Glass, pour évoquer avec vous justement ce besoin de mots, de répétition de sons. Cécile Adjali, on va se quitter dans pas longtemps, mais j'ai l'impression que finalement la musique peut vous aider à vous stabiliser aussi.
Oui, parce que elle agit sur mon corps directement, encore peut-être plus que sur mon esprit. Le matériau littéraire, linguistique, s'attaque directement en le fortifiant, j'espère, à mon esprit. Il y a quelque chose d'assez intellectuel dans l'exercice littéraire, alors que dans l'audition, dans le fait d'écouter un morceau que l'on aime, là, c'est tout le corps qui s'abandonne. C'est quelque chose de très organique, et je dois admettre, même si cette dialectique corps-esprit me fait souffrir dans ma vie quasiment au quotidien, je dois admettre qu'il faut lâcher prise et accorder à ce corps toute l'importance qu'il a. Et peut-être que je lâche prise plus volontiers, et c'est très bien quand j'écoute de la musique.
Philip Glass en particulier, c'est ça, The Hours.
Alors, c'est ambigu, parce que c'est une musique qui est faussement simple. C'est une musique répétitive, donc assez obsessionnelle, donc étant assez toquée comme fille et assez dans l'obsession, écouter de l'obsession pour la placer sur de l'obsession, ça peut sembler assez paradoxal. Mais encore une fois, peut-être qu'on a là quelque chose qui ressemble à la catharsis que définissait Aristote dans sa poétique. On va au théâtre pour éprouver en même temps que les protagonistes terreur et pitié, et on décharge au théâtre, au moment du spectacle, c'est toute nos mauvaises passions, toutes nos hantises, toutes nos terreurs, et on retourne à la maison absolument purgé de corps et d'esprit. Et peut-être que la musique a cette fonction cathartique chez moi.
Et puisqu'il est l'heure de se quitter, Cécile Adjali, je crois, bien sûr, la littérature, mais aussi la famille, votre fils, votre fille aussi, vous ont finalement aussi recousu d'une certaine manière.
Oui. Ils m'ont réconcilié avec un parcours, avec des origines, avec l'amour incommensurable qu'il me reste à donner à l'endroit de ces deux êtres merveilleux. Et mon fils me donne, et ma fille également, me donne beaucoup de joie, surtout quand il joue du piano.
On va écouter un nocturne de Chopin, puisque je crois que votre fils sait jouer les nocturnes de Chopin.
Très bien, oui.
Pour se quitter, je rappelle que Fille de personne a paru chez Actes Sud, votre 12e roman, Cécile Adjali. Et pour ceux qui aiment Shakespeare, je les invite à aller lire Comme il vous plaira, traduit par Cécile Adjali aux belles lettres, dans une très belle version parue en janvier dernier. Thank you. Maria João Pires interprète ce nocturne numéro 5 en fa dièse majeure de Chopin pour terminer cette émission en compagnie de Cécile Ladjali qui était l'invitée de Musique et moi ce matin. Je rappelle que son dernier roman a paru chez Actes Sud et se nomme La fille de personne. Je vous invite à aller sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi pour retrouver toutes les informations concernant cette émission. Un grand merci à Alain Joubert qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique, une très belle semaine également et on se retrouve dimanche prochain à 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.